Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
On va la refaire celle-là.
Bonjour à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans, vous êtes bien sur Radio Campus, je viens de le dire, dans Écoute ta fac et je suis accompagnée de Marion. Comment ça va Marion?
Ça va et toi?
Ça va super, bon, je vais te laisser t'installer tranquillement parce qu'on a aujourd'hui du monde pour ce Écoute ta fac que j'ai d'ailleurs un peu abandonné précédemment, mais ça y est je suis de retour pour les problèmes techniques parce que ça manque un petit peu de problèmes techniques puisque je suis derrière les manettes pour ce Écoute ta fac. Aujourd'hui, on parle développement durable, sensibilisation, soutien local et bien d'autres via la restauration universitaire d'Orléans. Mais je laisse un peu le suspense parce que juste avant, on va écouter un titre qui s'appelle « Le béton armé » de Usé. Donc restez avec nous pour la suite sur Radio Campus.
Sous la lune, je m'allume. Sous la lune, je m'allume. Une terrasse, il ne reste que du béton armé. Sous la lune, je m'allume. Une terrasse, il ne reste que du béton armé. Sous la lune, je m'allume. Viens bien faire un cauchemar. Sous la lune, je m'allume. En avant les histoires. Sous la lune, je m'allume. Viens bien faire un cauchemar. Sous la lune, je m'allume. Que du béton armé.
Écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Eh bien bonjour, aujourd'hui nous avons du beau monde actuellement en plateau. On va commencer par Victoire. Victoire.
Oui. Wow.
Victoire, responsable de la communauté associative de production durable de Bleu Blanc-Cœur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est Bleu Blanc-Cœur déjà ?
Alors, je vais vous raconter les grandes lignes de la démarche. Donc, Bleu Blanc-Cœur, c'est une initiative qui a bientôt maintenant 30 ans. À la base, c'est une rencontre entre deux hommes, dans un premier temps, un ingénieur agronome et un éleveur de vaches laitières. L'éleveur, qui s'appelait Jean-Pierre, et qui s'appelle d'ailleurs toujours Jean-Pierre, qui est encore très actif dans Bleu Blanc-Cœur, se posait la question de la différence de ses produits en hiver comme en été. Il se rendait compte que l'hiver, le beurre était un peu plus dur à tartiner, un peu moins gustatif. Et donc, en discutant avec Pierre Veil, l'ingénieur agronome, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à prouver la différence, à montrer ce qui réside de la différence? Et donc, de là est née la démarche Bleu Blanc-Cœur. C'est une démarche agricole et alimentaire qui est vraiment basée sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle de nos assiettes. Ça, c'est vraiment l'essentiel. On a trois piliers de la démarche aujourd'hui. Et on a un premier pilier qui est surtout la prévention santé. On a un peu tous le contexte des maladies de civilisation qui augmentent, les problématiques liées à l'obésité, au diabète. Et du coup, on s'est vraiment positionné depuis la base sur un aspect prévention santé. Donc à l'heure actuelle, on a fait 6 études cliniques, on a 400 publications scientifiques qui travaillent vraiment sur les bienfaits de Bleu Blanc-Cœur. Et donc concrètement, en fait, on a bossé sur l'évolution des rations des animaux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous comment est nourrie une vache, un poulet ou encore un lapin. Mais on a essayé de diversifier cette ration, de sortir un peu du classique maïs, blé, soja, pour avoir des vrais intérêts nutritionnels. Et donc, on a proposé plutôt des cultures plus locales qu'on fait chez nous, donc du lin, de la févrole, des lupins, pour intégrer dans la ration des animaux et voir ce que ça faisait directement sur les animaux, quel était l'effet bien-être, et voir quel était l'impact nutritionnel. Donc ça, c'est vraiment la première chose. On a des cahiers des ressources, qu'on appelle, qui permettent de structurer toutes les filières qu'on accompagne, et qui sont basés sur des objectifs de moyens et des obligations de résultats. Donc en gros, on mesure le profil lipidique, je rentre un peu dans le détail, mais on regarde quelles sont les qualités nutritionnelles quand une vache a mangé une ration plutôt Bleu Blanc-Cœur et qu'une autre a mangé une ration plutôt conventionnelle. Donc là, on voit la différence. Et donc on s'est vraiment rendu compte que l'impact de Bleu Blanc-Cœur permettait de travailler sur le ratio d'oméga 6 et oméga 3 qui était beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est vraiment l'approche principale qui était l'approche santé. Donc en mangeant des produits Bleu Blanc-Cœur, vous avez un gage de produits sains et durable et responsable, puisqu'il y a tout un volet aussi environnement qui est accroché à la démarche, puisque si on limite et si on interdit le soja d'importation dans la ration des animaux, on participe à notre échelle à la lutte contre la déforestation notamment. On a constaté un confort aussi de digestion de la part des animaux, quand on introduit ce que je vous disais tout à l'heure, lin, févrole, lupin, etc. C'est beaucoup plus digeste et donc les
fameux méthane des vaches notamment.
Exactement. Et donc les animaux rejettent moins de méthane, puisqu'on sait que c'est l'agriculture l'agriculture est source quand même de gaz à effet de serre. Donc on a réfléchi, ok, notre agriculture française elle est là, on a un vrai savoir-faire, mais comment on fait pour pallier et diminuer notre impact environnemental? Donc ça passe par la ration des animaux, cette fameuse digestion. On accompagne aussi les pratiques plutôt agroécologiques, tout ce qui est autonomie protéique, etc. Donc ça, c'est vraiment l'approche environnementale en complémentarité de la santé. Et le troisième et dernier pilier, c'est la notion d'accessibilité. Il est hors de question de faire une démarche de niche qui puisse être dédiée seulement à l'élite des citoyens français. Non, nous, l'objectif et la vocation de Bleu Blanc-Cœur depuis plus de 25 ans, c'est de rendre les produits accessibles sous deux biais, accessibles financièrement. Accessible aussi un peu partout dans la grande distribution. Donc on a noué des partenariats assez forts avec les acteurs de la grande distribution pour pouvoir proposer des produits sains et responsables à un grand nombre de Français. Donc ça, c'est vraiment...
Et quid de la rémunération de l'agriculteur
Exactement.
Dans ce cas-là ?
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi une fibre de Bleu Blanc Cœur, toute cette approche et cette valorisation. Alors c'est un investissement pour l'agriculteur, l'éleveur, puisque de changer sa ration, ça coûte. Il s'engage, mais c'est un investissement sur du long terme. Et puis il a aussi, pour ces animaux déjà, parce qu'on s'est rendu compte, je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts, mais ça me marque toujours quand je rencontre des éleveurs qui me disent « Mais en fait, moi, depuis que je donne à manger des rations Bleu Blanc Cœur à mes animaux, eh ben, j'ai beaucoup moins de frais de vétérinaire. Donc j'ai un gain aussi. Les animaux sont en meilleure santé, ont un poil plus soyeux, ont une fertilité aussi plus intéressante. Donc il y a une valorisation du producteur qui est essentielle dans la démarche Bleu Blanc Cœur, ça c'est une évidence.
D'accord. Bleu Blanc Cœur, donc c'est un label, si je comprends bien. Est-ce que je le résume un peu en disant ça ou...
Oui, c'est résumé, mais on est un peu sur les mêmes principes. On n'est pas un label puisqu'on n'est pas un label d'État. On a été une démarche associative pendant longtemps. Donc on parle de certification, de démarche. Mais c'est un principe un peu, en fait, ça permet au consommateur d'être éclairé sur sa consommation et de savoir que quand il achète un produit Bleu Blanc Cœur avec le petit logo, je ne sais pas si vous avez peut-être le petit logo, mais qui est de différentes couleurs, ça lui permet d'avoir un gage de qualité nutritionnelle et d'acheter un produit à un impact environnemental intéressant.
Alors, on vous a toutes et tous réunis autour de ce plateau pour parler notamment de la journée européenne contre les déchets et le gaspillage alimentaire. Rappelez-moi la date de cette journée. On serait sur...
Le 20 et 21,
c'est ça. Au-delà de ça, donc Bleu Blanc Cœur est en lien, j'imagine, avec la restauration universitaire sur l'ensemble du projet. Alors, à quelle échelle, comment est-ce qu'on peut qualifier justement cette collaboration avec les restaurants du Crous ?
Alors, cette collaboration, elle commence à dater. Bien avant l'obligation par l'État avec la loi Egalim, on s'est rapproché des Crous en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on a travaillé ensemble sur justement comment apporter des aliments de qualité. Comment varier l'assiette des étudiants en proposant des produits Bleu Blanc Cœur, donc majoritairement sur des produits carnés, donc de la volaille, du porc, mais aussi des ovoproduits. Et donc on a commencé ce lien, voilà, depuis... ça va faire 10 ans du coup, puisqu'on va passer en 2025 à peine 10 ans. Mais voilà, ce partenariat existe sur tous les restaurants et les crous. Et puis on va de temps en temps, justement, ça me permet de faire le lien avec le dernier sujet de Bleu Blanc Cœur. On va sensibiliser les étudiants à la démarche, puisque c'est pas facile de s'y retrouver. On a parlé de labels, il y en a une multitude. Et en plus, quand on commence dans la vie active, quand on est jeune étudiant, c'est pas facile de s'y retrouver dans tout ça. Et donc on fait des actions avec les crous de sensibilisation des étudiants sur lequel on arrive à mobiliser nos ambassadeurs. Les ambassadeurs de la démarche, ce sont des membres de notre communauté associative. En fait, Bleu Blanc Cœur existe aussi, puisqu'il y a un vivier de personnes, un peu plus de 32 000 à l'heure actuelle, qui sont convaincus par la démarche et qui veulent la faire rayonner sur l'ensemble du territoire. Donc on a des ambassadeurs, des médecins, des diététiciens, des consommateurs, des agriculteurs et aussi des professionnels des métiers de bouche qui, de manière bénévole, vont parler de la démarche, la faire rayonner, la vulgariser pour qu'on puisse comprendre ce qu'il y a derrière ce logo. Et on a notamment des chefs de restauration collective du Crous qui sont ambassadeurs et qui en parlent au quotidien.
Les enjeux, donc, on imagine, sont importants en la matière, justement, quand vous parliez d'enjeux à la fois de santé publique, enjeux également d'une meilleure considération des agriculteurs, quel est votre regard peut-être sur l'évolution un peu de ces considérations et de ces questions depuis une dizaine ou une quinzaine d'années? On a l'impression qu'il y a une prise de conscience réelle sur ce secteur-là, mais est-ce que les choses bougent et avancent dans le bon sens? Est-ce qu'il faut en faire encore beaucoup plus? Quel est l'état des lieux actuellement?
C'est difficile de vous répondre précisément sur cette question. Moi, ce que je ressens quand justement je parle avec cette communauté de personnes, donc je ne parle pas avec les 32 000 personnes au quotidien, mais j'ai quand même pas mal d'échanges avec plein de profils variés, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience collective. Ça, c'est une évidence. À tous les âges, de tous les profils, on parle de « ok, en fait, l'acte de manger » est un acte d'engagement, de militantisme pour faire avancer notre transition alimentaire et notre transition agricole. Donc ça, c'est c'est passionnant puisque bah et c'est hyper stimulant puisqu'on se rend compte que nous-mêmes citoyens on a vraiment un pouvoir d'agir sur ce volet-là. Donc c'est vraiment ça que je constate au quotidien, cette prise de conscience collective dans tous les milieux, dans toutes les professions.
Eh bien en tout cas merci Victoire.
Avec plaisir.
Et du coup on est aussi avec Marie et Sandra de MacFruit. Marie qui est responsable de la collectivité et Sandra responsable marketing. Bonjour.
Bonjour.
Et du coup, comme la question de Victoire, qu'est-ce que MacFruit en soi ? Expliquez-nous, s'il vous plaît.
Alors aujourd'hui, MacFruit, c'est un acteur local. On est fournisseur de fruits et légumes, notamment pour les restaurants des Crous. Donc on fournit les fruits et légumes au quotidien. Et nous, nos valeurs, c'est le partage, l'engagement, la qualité et la proximité. Alors, comment ça se traduit en travaillant avec vous ? Aujourd'hui, on fournit en fruits et légumes aussi bien des collectivités privées ou publiques. Donc, on va fournir des hôpitaux, des maisons de retraite. Et nous, on a une action et un devoir de vous fournir des produits sains et de qualité nutritionnelle impeccable. D'accord ? Aujourd'hui, la loi Egalim est passée depuis quelques années maintenant. Et cette loi Egalim, pour un petit rappel, parce que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, cette loi Egalim oblige les acteurs de la collectivité à acheter 50% de leurs produits en chiffre d'affaires du montant d'achat avec un sigle de qualité, dont 20% en bio. Et aujourd'hui, la famille des fruits et légumes reste le produit le plus accessible pour atteindre ces quotas. Ce sont des quotas qui sont vérifiés. Et nous, notre action, c'est de vous fournir et de proposer aux chefs de cuisine, aux gérants des restaurants, des produits qui répondent à cette loi. Alors, comment on les a travaillés ? Nous, du fait de notre ancrage local, on est à 3 km, allez, voilà, on a un vrai ancrage local de longue durée. Donc, on travaille avec des producteurs en local, sur tout type de produits, et on les fait évoluer. Et aujourd'hui, avec cette loi Egalim, on est même en capacité de leur faire passer leur certification. Donc ce sont comme des degrés, en fait, donc des certifications. Et on leur fait passer leur certificat, par exemple, HVE ou IGP ou des choses comme ça.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer rapidement ces acronymes, s'il vous plaît ?
Alors, HVE, c'est la haute valeur environnementale. Donc ça concerne énormément les pommes et les poires. Aujourd'hui, on est dans un bassin de production ici, chez vous et chez nous, sur les pommes et les poires. Et donc, on travaille main dans la main avec ces producteurs et on leur achète leur production et on leur fait passer leur certification. Donc c'est un réel partenariat, aussi bien en amont avec nos producteurs qu'en aval avec nos clients, comme les Crous. D'accord ? Donc ce cadrage de localité, on le travaille en maraîchage, sur des pommes et des poires. Ça, c'est notre travail en interne, de vous proposer des choses qui vous conviennent.
Pour qu'on puisse avoir une petite idée concrète, alors c'est pour donner quelques exemples, hein, c'est évidemment pas l'ensemble, mais au niveau des producteurs locaux, est-ce que vous avez des exemples un peu à nous donner justement de personnes qui collaborent avec vous ?
Alors on travaille avec la société Cultive qui est à Saint-Benoît, qui font tout ce qui est concombre, maraîchage en saison. D'accord. On a été fortement leur partenaire. Il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine a impacté leurs coûts de production. Et nous, on a été là aussi. Donc, on travaille avec ces gens-là. On travaille avec beaucoup de producteurs en pommes et poires. Les cerises de Cléry, par exemple. Tout ce qui est maraîchage, salade, radis en saison. Donc là, ça se termine.
Les fraises de
la Sologne, voilà. On a un bureau d'achat sur la Sologne qui nous permet justement d'avoir un vrai lien avec ces producteurs. Une sorte de mini plateforme, et après on redistribue directement sur les sites.
D'accord. Donc fruits et légumes, comment ça se passe cette collaboration avec les restaurants universitaires ? C'est pareil pour fournir justement fruits et légumes, et comment se passe notamment aussi ce contrôle qualité pour justement assurer aux étudiants d'avoir les meilleurs produits possibles ?
Alors du coup, donc là dans ce cadre des marchés des Crous, c'est un marché public où on a écrit, enfin le client, donc les Crous ont écrit leur desiderata sur ce qu'ils voulaient qu'on fournisse et nous on s'engage à leur fournir exactement ce qu'il y a décrit dans leur marché. D'accord ? Donc on a un système d'agréage, un système de qualité également avec des responsables qualité qui vérifient la véracité avec des contrôles. On fait des contrôles de sucre, on fait des contrôles sur les fruits avec des prises, etc. Et ça c'est le contrôle et notre travail en amont. Et ensuite, avec nos clients, pour tout ce qui est qualité, donc on fournit des calendriers de saisonnalité. Voilà, pour les chefs de cuisine. Aujourd'hui, le chef de cuisine, il peut être un peu perdu sur la saisonnalité. On les accompagne en disant, bah voilà, de telle date à telle date, la pomme que vous achèterez, elle est produite à 40 km de chez vous et elle est siglée haute valeur environnementale, donc elle rentre dans votre loi Egalim. Donc toute cette partie communication, on l'apporte avec les chefs gérants auprès d'eux. On peut également faire des animations, comme vous allez avoir la semaine prochaine, en sensibilisant sur notre travail, notre métier qui reste assez peu connu. On mange des fruits et légumes sur les selfs, dans les hôpitaux, etc. On sait rarement d'où ça vient. Voilà. Nous, notre travail, c'est également de faire ça. Et on accompagne aussi sur tout ce qui est, si je peux un petit peu dévier sur le déchet, on accompagne à adapter les calibres aux convives avec qui on travaille pour ne pas fournir une pomme trop grosse qui ne sera pas mangée et dont on va jeter 20%. Là, c'est de la perte sèche. Donc, nous, on accompagne, on sensibilise à la commande avec des acteurs chez nous, au niveau de la télévente, qui sensibilisent pour que le calibre soit adapté aux convives en face. Notamment, on travaille également avec des scolaires maternelles primaires où là, les calibres sont beaucoup plus petits, c'est adapté. Voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude, on s'adapte, on juge et après, le client reste maître, bien sûr, mais le but, c'est vraiment d'avoir le moins de déchets possible chez le convive.
Ouais. Ça inclut aussi de travailler sur la représentation que les gens peuvent avoir aussi justement du fruit et du légume, le fameux fruit moche ou le fameux légume moche, oui, qui est laissé de côté alors qu'il est tout aussi bon.
Oui, voilà. Alors nous, on a un vrai travail là-dessus. C'est un travail de tous les jours où on doit dire, voilà, vous acceptez, vous demandez des fruits bio, bah, ils peuvent être un petit peu moins jolis que, voilà. Mais tant qu'on a les démarches d'expliquer et de communiquer, généralement, ça passe quand même plutôt assez bien et les gens sont plutôt ravis d'avoir affaire à des fruits qui sortent un peu de l'ordinaire.
Il y a donc votre présence, bah, on va revenir de toute façon toujours sur cette journée européenne donc, contre les déchets et le gaspillage alimentaire. Quel va être le rôle donc, de votre structure McFruit au cours de cet événement ?
Alors, ça va être de sensibiliser justement sur la pro et la proximité de nos approvisionnements en fruits et légumes et de montrer que, bah oui, la pomme qui mange tous les jours au self, elle est produite pas très loin. C'est vrai que souvent, on est un peu le parent pauvre, on ne sait pas vraiment d'où viennent nos fruits et légumes. Mais nous, notre objectif, c'est de montrer qu'on soutient et l'économie locale en travaillant en local avec nos agriculteurs, en partenariat, parce qu'on leur fait passer des certificats et on s'engage sur des volumes. On peut même leur acheter des graines pour qu'ils puissent produire, on le fait en courgettes, par exemple. Toutes ces actions-là, nous, on le fait, on le sait, mais eux ne le savent pas. Donc, à nous de communiquer là-dessus.
D'ailleurs, ça sera peut-être l'objet d'une question un petit peu plus tard dans l'émission, mais peut-être que vous avez déjà un point de vue de ce côté-là. Les restaurants universitaires ont souvent la réputation, enfin, les étudiants qui vont dans les restaurants universitaires ont souvent la réputation d'aller prendre le fameux steak frites ou ces aliments voilà, qui nous attirent toutes et tous, naturellement. Voilà, mais les fruits et légumes sont quand même, prisés par les étudiants, ou alors il y a quand même du travail à faire de ce côté-là?
C'est prisé et reste quand même du travail. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le repas pris par les étudiants sur les Crous reste souvent quand même soit le repas principal, soit vraiment l'apport nutritionnel principal de la journée. À nous d'apporter des bons fruits et des bons légumes pour que ça fasse envie, bien évidemment. Le côté santé est vraiment quand même mis à l'honneur par les médias et par la politique actuelle sur les 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, tout le monde l'a entendu, tout le monde le sait. Voilà. Les menus végétariens sont quand même beaucoup mis en avant. Le végétarien, c'est vraiment pour nous. Donc, on avance sur ce sujet. Il reste du travail, mais on a quand même bien avancé depuis quelques années.
On en parlait un peu tout à l'heure, mais du coup, face à la demande croissante pour des produits respectueux de l'environnement, comment vous arrivez à anticiper justement les évolutions des politiques d'achat pour continuer à promouvoir justement les pratiques éco-responsables?
Alors justement, là, c'est vraiment notre rôle de partenaire avec les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on va les voir en début ou en fin de campagne et on leur propose des volumes contractualisés pour les rassurer avec des prix planchers. Aujourd'hui, la loi Egalim interdit de vendre à perte, donc on contractualise et les deux parties sont rassurées. Ça nous permet aux clients, à vous, acteurs du Crous, d'être assurés d'avoir toujours votre pomme et votre banane sur votre plateau ou sur votre self, et aux producteurs de se dire, bah voilà, je travaille en collaboration, ma production va être achetée quoi qu'il arrive, et même s'il y a des calibres un petit peu différents qui peuvent rebuter.
Ouais. C'est une thématique qui est d'autant plus d'actualité, puisque là, on entend encore que les agriculteurs pourraient se remobiliser encore pour demander de nouvelles améliorations sur leurs conditions. Il y a eu plusieurs, hein, loi Egalim, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, exactement.
Mais... Ouais. La loi Egalim évolue. Mais
ouais.
Elle...
Ouais. Ah voilà. Oui, non, c'est voilà. La loi, mais ouais, c'est qui plusieurs évolue, moutures voilà. de la loi Egalim, effectivement. Mais enfin, oui, on... Nous, en tant que consommateurs, effectivement, on a tendance tout de suite à chercher évidemment au prix le plus bas, mais on se rend bien compte quand même qu'il faut que l'agriculteur vive, il faut qu'il puisse se soutenir. Donc, vous avez parlé hein, effectivement de ces différentes mesures et de ce qui est mis en place justement pour garantir un revenu décent aux agriculteurs, mais on a l'impression quand même que ce n'est jamais un combat gagné et qu'il y a toujours, il y aura toujours en fait des menaces sur justement l'intégrité un peu des agriculteurs.
Oui, il faut les protéger et là aussi c'est notre rôle. Vous avez également un rôle à tenir quand vous mangez une pomme au self le midi, ça c'est certain. Mais oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille vraiment au quotidien. C'est pas parce que la loi Egalim par exemple est passée avec des certificats particuliers qu'on a arrêté de travailler avec nos producteurs historiques. Voilà, on leur a dit, attendez, la loi Egalim est en train de passer, on va essayer de modifier un petit peu notre façon de travailler, mais on va continuer de travailler avec vous.
Eh bien, merci en tout cas. Peut-être qu'on va continuer en musique.
Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Restez avec nous sur Écoute ta fac. Et juste maintenant, on écoute Archangel de Burel. À tout à l'heure.
Kissing you.
sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. On parle toujours des journées européennes contre les déchets et le gaspillage alimentaire qui auront lieu le 20 et 21 novembre. Et on a déjà vu, on vient d'interviewer Bleu Blanqueur et le Mac Fruit. Et tout de suite, on va accueillir Edouard, représentant de Veolia. Bonjour.
Bonjour Marion. Alors oui, nous, notre société, tout le monde, je pense, connaît la société Veolia, hein, donc société multinationale. Nous, on a un rôle plutôt local ici, hein, c'est Veolia RVD, donc recyclage et valorisation des déchets. Donc on intervient de manière générale sur le campus, sur tout ce qui est collecte des ordures ménagères, hein, donc de vos différents résidences étudiantes, des différents restaurants, du carton et du biodéchet, qui est dans la semaine quand même européenne des déchets compte beaucoup. Les biodéchets, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout ce qui est reste alimentaire. Entendu, hein, ça peut être aussi les trognons de pommes. Tout à l'heure, on parlait avec les collègues de McFree. Voilà, tout ce qui est qui va pas être consommé dans les assiettes. Et puis derrière, on emmène ça. On a mis ça en place avec Monsieur le Pêcheur il y a pas si longtemps que ça, parce que maintenant c'est une obligation réglementaire, hein, du particulier d'ailleurs jusqu'aux entreprises, aux administrations et autres, afin d'emmener ça en méthanisation. La méthanisation, c'est quoi? C'est une grosse cocotte minute, ça chauffe et ça fait de l'énergie. Voilà.
Donc, et du digesta aussi pour les agriculteurs.
Et du digesta, tout à fait. Voilà. Donc il y a plusieurs façons, hein, bien sûr, de traiter aussi des biodéchets. Alors bien entendu, quand c'est emballé, c'est plutôt de la méthanisation, si on n'a pas de désemballeur. Et on peut aussi composter, on a un site à Saint-Péraville à Colombes, hein, pas très loin d'ici aussi, donc toujours en local, pour traiter et valoriser ces déchets non emballés, pour en faire du terreau et réalimenter les sols, les enrichir et ainsi de suite.
Voilà. D'ailleurs, juste, je me permets de faire un petit aparté. Au niveau des habitants, est-ce que ça a été finalement accepté? Parce qu'on sait, hein, que les histoires de méthaniseurs, il y a eu plusieurs mobilisations dans le Loiret sur certaines créations de méthaniseurs. Aujourd'hui, quelques temps après la création de ces méthaniseurs, est-ce qu'ils sont relativement acceptés maintenant par les habitants, les collectivités?
Alors, c'est vrai que sur le Loiret, on en a quand même beaucoup. Alors, il y a plusieurs méthaniseurs, hein. Il y a, pour expliquer un petit peu aux étudiants qui nous écoutent, on a des méthaniseurs plutôt agricoles qui ont plutôt une même typologie de déchets, hein, donc des déchets plutôt pas emballés, légumes, fruits, vraiment assez homogènes en termes de qualité, qui sont sur des zones quand même, en règle générale, assez écartées des habitations. Moi, de ce que je vois, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et puis, des digesta méthaniseurs qui sont plutôt destinés à plutôt des déchets industriels, hein, avec des quantités que Veolia peut emmener en différents contenants, qui sont plutôt souvent emballés et qui, eux, ont un rôle différent, vraiment. Ils en absorbent beaucoup plus. Mais j'ai pas vu de gêne, moi, particulière, et ça se développe de plus en plus, parce que, de toute façon, en tant que particulier, vous avez un composteur, les entreprises ont une collecte de déchets, donc de toute façon, ça touche tout le monde. Donc, de toute façon, il faut trouver une alternative au compost et à l'incinération, qui n'est pas toujours aussi accepté, surtout une population maintenant hyper sensibilisée.
Les taxes en plus sont en train d'augmenter d'année en année, il me semble, hein, notamment au niveau de l'incinération des déchets.
Hein. Ouais, c'est ça. Alors après, nous, ouais.
Je me permettais, hein, de digresser, ouais, un petit peu, mais je pense que ouais, c'est une problématique actuelle.
Bah, c'est ça, parce qu'en fait, nous, notre métier, il touche certes le CROUS, les industriels dont moi je m'occupe, mais on a aussi une partie propreté urbaine qui est le porte-à-porte, où on collecte la poubelle chez les habitants. Alors, vous avez sûrement vu des camions dans vos différentes communes Veolia qui collecte les poubelles, et du coup, bah, il y a 20 ans, 25 ans, on avait qu'une, voire peut-être deux poubelles. Maintenant, on peut avoir deux, trois, quatre poubelles, plus des bornes d'apport volontaire. Vous allez déposer vos bouteilles, vos plastiques et diverses choses à recycler. Hein. Et des associations aussi qui existent pour récupérer des bouchons, ce genre de choses. Donc tout le monde a sa place pour recycler les déchets, que ça soit ici ou ailleurs d'ailleurs.
Si on revient sur le cadre universitaire, je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête ou en tout cas une petite estimation, mais je me posais la question, hein, de ce que représentaient les déchets sur le campus de l'Université d'Orléans par an, par jour. Je ne sais pas si vous avez des chiffres.
Alors, en termes de chiffres, en fait, en pesé, non, parce qu'en fait, on est à la, ça marche en caisse-palette. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, mais justement pour que... Mais aujourd'hui, on a lancé ça avec Monsieur le Pêcheur en début d'année, il me semble. Hein, ça ne fait pas des années. On n'a encore pas une année complète d'exploitation, parce que les nouveaux bâtiments sont arrivés. Mais on a entre 4, 5 palettes. Donc voilà, ça fait une tonne. Ça peut faire 2 tonnes par mois. Ça va assez vite, hein, sur un campus. Hein. Et en fait, c'est c'est toujours pareil. Vous allez voir qu'au fil des années, alors soit il y aura moins de gaspilles, ou alors il y en aura de plus en plus. Mais tout ce qu'on va mettre en méthanisation n'ira pas en incinération dans les déchets, en fait. Hein. Donc c'est que du tri en plus. Le tout, c'est comme la loi AGEC, c'est 50% d'enfouissement en moins d'ici 2025. Donc c'est quoi les alternatives? C'est la méthanisation, le tri sélectif, l'incinération quand on peut. Voilà. Et nous, on est là pour essayer de justement, sur ces deux journées qu'on va avoir la semaine prochaine, j'anticipe déjà la question, d'informer les étudiants, de répondre à toutes leurs questions aussi. Hein, à votre avis, je mets ça dans quoi? Et on a quand même un rôle, des fois, aussi un peu citoyen. En fait, il y a des questions, comme vous posiez tout à l'heure. Tiens, bah, je me pose des questions, ça pue dehors. Ça... Voilà, on explique un petit peu tout ça avec nos mots, parce que si on n'est pas réellement convaincu de vouloir trier, on le fera pas de toute façon. Donc, mais ici, il y a quand même tout pour trier, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en tout cas. Voilà.
Alors après, est-ce que justement le cerveau humain s'adapte, et est-ce que justement les étudiants que vous rencontrez, les gens que vous rencontrez s'y mettent de plus en plus, parce que voilà, il y a le fait de mettre les solutions en place, mais il y a ensuite après le fait de s'en emparer pour le coup. Ouais. Est-ce que les gens s'emparent de ces solutions?
Alors oui, pour les citoyens, oui, mais en fait, ce que je disais précédemment, c'est que faut en être déjà convaincu à la base. Alors les industriels, les entreprises, comme même au Crous, il y a quand même aussi des obligations réglementaires. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Donc à un moment donné, l'obligation fait qu'on prend des habitudes. Hein, les générations, moi j'ai déjà commencé dans la boutique il y a 18 ans, on ne fait plus du tout la même chose qu'on fait aujourd'hui. Et puis bah, on suit hein, petit à petit. Hein. C'est aussi ce qui fait le charme du métier, c'est que ça évolue tout le temps. Si on fait toujours la même chose, ce n'est pas top. Puis quand on voit un petit peu tout ce qui est dérèglement des climatiques et tout ce qui s'ensuit, forcément que le tri des déchets, les enfouissements et autres, ça n'aide pas non plus. Hein. Donc on a tous intérêt à s'y mettre et puis faire ça comme il faut. Mais non, dans l'ensemble, je n'y vois pas trop de réticence. Hein. Pour répondre à votre question.
Ouais. Lutte contre les déchets, gaspillage alimentaire. Sur l'université d'Orléans, quel type de gaspillage alimentaire ou quel type de déchets est-ce qu'on retrouve le plus sur lesquels on travaille particulièrement?
Ah bah alors, ce que je vous expliquais en préambule, nous, chez vous, on collecte les ordures ménagères qui sont, à mon avis, principalement les collectes des résidences étudiantes. Hein. Donc là, pour le coup, c'est vraiment à l'étudiant de pouvoir trier réellement ce qu'il en est. Les cartons, bon ça, les cartons, c'est tout ce qui est emballage. Hein. Après, les emballages cartons qui concernent plutôt le Crous avec vos arrivages de matières premières pour cuisiner ou les fruits éventuellement, hein, qui arrivent aussi, je ne sais pas s'ils arrivent en caisse en bois ou en carton, j'en sais rien. Donc il y a tout ça aussi à travailler, les emballages, hein, parce que moins il y a d'emballages, moins il y a de déchets à jeter. Et puis derrière, sur les Crous, les différents déchets alimentaires qui sont recyclés. Voilà pour,
Est-ce qu'on peut faire justement un focus par rapport à ces actions avec le Crous, puisque c'est aussi pour ça que vous venez, c'est justement, on voit avec différents interlocuteurs et interlocutrices qui sont en lien avec les restaurants du Crous, est-ce qu'on peut préciser un petit peu cette action de Veolia en lien avec les restaurants universitaires d'Orléans?
Oui, bien sûr.
Ouais. Ouais, non, mais, les actions principales, justement, pour limiter un peu ce gaspillage ou pour retraiter, entre guillemets, les déchets qui sont indispensables. On verra peut-être ça avec Monsieur le Pêcheur, ouais. Notamment, c'est ça, ouais. Ok. Parfait, on reposera la question dans ce cas-là. Je me posais aussi la question par rapport, justement, à ces journées. Vous aviez un peu parlé, justement, de ces rencontres avec les étudiants. C'est aussi une manière de faire du lien également avec les autres acteurs et actrices qui sont engagés dans cette question justement de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous allez en profiter pour faire du lien, pour créer un peu d'autres partenariats ou monter peut-être d'autres projets, je ne sais pas.
Alors moi, oui, on est toujours déjà ravis de voir aussi les gens qui fournissent aussi le Crous, parce que derrière, on peut mettre aussi des actions, soit avec Monsieur le Pêcheur ou éventuellement les autres fournisseurs, afin d'avoir, on en parlait tout à l'heure, d'autres emballages pour retraiter mieux, parce que tout ça, ça a un coût aussi. Hein, donc forcément, plus on trie, moins ça coûte cher, et moins vous triez, plus ça vous coûte. Donc le coût, c'est aussi l'essentiel un petit peu du nerf de la guerre, du traitement des déchets aussi. Donc voilà. Et après aussi, le but, pour moi, pour ces deux jours, hein, concrètement, c'est aussi d'échanger franchement avec les étudiants, qui est aussi les bonnes pratiques. Peut-être qu'ils auront des réflexions à se faire sur les restaurants, disant tiens, j'ai pas ça pour mettre, je pensais à ça. Et il y a toujours beaucoup de questions qui sont intéressantes lors de ces forums, lors de ces manifs. Et je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Donc on verra. Hein. Donc on sera dispo, on aura tout ce qu'il faut. On aura différentes choses à proposer.
Et du coup, justement, lors de cette journée, je vais parler pour tout le monde. Est-ce que vous avez des visées auprès des étudiants? Est-ce que vous voulez qu'ils soient plus présents dans votre organisme?
Nous, côté Bleu Blanc-Cœur, comme je vous le disais, il y a le volet collectif citoyen. Et on a vraiment besoin des jeunes, des étudiants, pour avoir leur ressenti, comprendre les habitudes alimentaires et puis accélérer un petit peu la transition alimentaire avec leurs témoignages et leurs actions. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à faire quand on intervient dans les CROUS, c'est leur donner les clés pour pouvoir lire la démarche Bleu Blanc-Cœur, savoir ce qu'ils achètent, mais aussi de leur proposer de s'engager avec nous et de rejoindre le collectif de 32 000 citoyens engagés. Donc ils sont tous et vous êtes tous les bienvenus à rejoindre la communauté. Vous verrez, on fait plein de trucs chouettes, on fait beaucoup d'apéros communautés, beaucoup de conférences, enfin voilà, il y a plein de formes qui sont possibles et c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site internet, il y a un petit pop-up orange qui apparaît en bas à droite pour rejoindre la communauté et nom, prénom, un petit mot, pourquoi ça vous branche et on peut rester en contact et créer des actions sur votre territoire.
Pour McFruit, nous, ce qu'on attend de ces deux journées, pour résumer ce qu'a pu dire Marie auparavant, c'est qu'on veut sensibiliser sur le fait qu'il faut consommer de saison pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pour la qualité nutritive du produit et pour l'environnement aussi, hein, et qu'il faut consommer des fruits et légumes tout simplement. Parce que c'est riche en vitamines, en fibres, souvent c'est antioxydant, et que notre corps en a besoin pour l'énergie et pour se maintenir tout simplement en bonne santé.
Voilà. Et ben manger 5 fruits et légumes par jour, voilà. On va rester sur le slogan. Non mais voilà, il fonctionne très bien pour le coup. Merci en tout cas à vous, et on va passer désormais à notre dernier interlocuteur. Éric Lepêcheur, vous êtes directeur des restaurants universitaires CROUS d'Orléans. On a le plaisir de vous recevoir, puisque ça va un peu nous permettre de conclure cette série d'échanges et d'entretiens autour justement de ces journées contre le gaspillage et les déchets, le gaspillage alimentaire et les déchets, ou plutôt dans l'autre sens, mais bon bref, j'ai l'idée en tête. 20 et 21 novembre, hein, on rappelle. Déjà pour commencer, est-ce qu'on peut faire un peu le point sur justement cette question du gaspillage alimentaire et des déchets au niveau des restaurants universitaires CROUS? Quelles sont les dernières mesures qui ont été prises récemment pour lutter contre cela? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport à une situation antérieure qui, j'imagine, était plus compliquée, j'imagine?
Déjà, merci de nous accueillir, c'est très gentil et ça nous permet justement de jouer ce rôle de communicant, mais aussi d'information et de guide, quelque part, modestement, je vous le rassure. Le CROUS, évidemment, participe à ces événements, d'une part pour être force de proposition et finalement pour participer à la réussite des étudiants dans leur devenir, mais aussi dans leur vie d'étudiante et dans leur vie à titre personnel. Hein. Le CROUS, c'est déjà un engagement social, vous le savez, hein, 1 euro pour le repas pour les boursiers, c'est évidemment peu cher. Donc c'est un rôle économique, environnemental, qui doit pouvoir s'intégrer dans nos repas. Et c'est bien le chemin que nous avons parcouru depuis ce matin, en parlant effectivement des produits, à travers soit Bleu Blanc-Cœur, soit les fruits et légumes, soit le traitement des biodéchets. Et depuis que je suis arrivé, effectivement, nous avons mis en place le traitement des biodéchets parce que c'est la loi. Mais au demeurant, on le fait aussi parce qu'on est citoyen et qu'on considère effectivement que ça a du sens pour la planète. Et donc, je remercie Veolia de participer à ce projet parce qu'on a encore beaucoup de travail. On a parlé de la loi GEC, c'est donc le plastique. Vous savez aussi qu'on a retiré les bouteilles plastiques aussi dans nos restaurants et qu'on met, au moins pour les cafétérias, des bouteilles en carton. Donc oui, on est vraiment dans toute cette démarche-là qui ne peut se faire, évidemment, sans l'approbation de nos étudiants, sans la participation des étudiants. C'est eux les moteurs. J'espère qu'ils font œuvre en la matière. Et puis, le deuxième point que nous avons fait, c'est évidemment le tri. Vous l'avez vu dans les restaurants. On commence à faire, finalement, faire comprendre à nos étudiants que ce sont eux les acteurs. Et donc, ils jouent le rôle. J'oserais dire qu'après, maintenant, les avoir accompagnés quelques mois, je suis plutôt satisfait, même si certains sont toujours réticents, même si certains oublient de jeter le gobelet ou le papier. Mais globalement, les étudiants sont là, sont au rendez-vous. Ça fait d'ailleurs grandement plaisir, parce qu'on s'aperçoit finalement que nos futures générations sont peut-être encore plus impliqués que nous aurions pu l'être à notre époque. Mais on ne va pas comparer ces deux époques très différentes. Et puis, garantir une alimentation saine et de qualité, c'est important pour nous. Et ça aussi, c'est le projet que l'on porte depuis maintenant quelques années, mais qu'on va développer, évidemment, puisqu'on doit être à 9% de bleu blanc-cœur dans nos assiettes à travers les produits qu'on vous propose. Donc, évidemment, il faut amplifier la chose. Ce qui est intéressant sur bleu blanc-cœur, c'est que ça touche, évidemment, aussi bien la production, le bien-être animal que la planète, mais aussi nos agriculteurs qu'on veut aussi être supposés en bonne santé à travers leur implication et bien sûr un revenu qui correspond à leur travail. Et pour ça, ce produit est peu cher finalement. Et donc s'il est peu cher à l'acte d'achat, alors ça nous permet de le mettre dans nos assiettes parce que vous savez qu'on n'est pas très riche en Crous et ça nécessite de jongler entre les différents signes de qualité accessibles que l'on peut mettre en offre dans vos assiettes pour que l'étudiant puisse avoir un prix accessible aussi de denrées, soit dans les cafétérias d'ailleurs ou dans nos restaurants. Donc c'est important. Et puis j'oserais dire à travers évidemment l'interprofession et en particulier McFruit qui est un grossiste local qu'on a besoin d'accompagner nos agriculteurs. On a besoin, et pour nous c'est une vraie demande dans l'acte d'achat, de considérer l'idée que les produits viennent de proximité. Pas tous, la banane, on va pas la trouver ici, on est d'accord, hein, ni l'ananas. Mais au demeurant, tous les produits que l'on peut trouver, et si possible, même accompagnés par un contrat tripartite, les agriculteurs, les grossistes et nous, pour s'engager sur une juste rémunération, une montée en qualité et avoir une rémunération tout au cours de l'année, alors c'est gagnant pour tout le monde et en particulier, bien sûr, pour nos jeunes étudiants, mais aussi pour toute la population de notre territoire. C'est ça l'enjeu, c'est de développer modestement cette souveraineté alimentaire dans notre territoire. Et ça implique que tous les acteurs, quels qu'ils soient, participent à ce projet.
Et c'est possible du coup d'en arriver là, enfin je rebondis hein, avec des discussions qu'on a pu avoir déjà auparavant, mais c'est possible justement de s'engager à un prix minimal pour l'agriculteur tout en maintenant également des coûts acceptables pour les étudiants, puisqu'on sait très bien que les étudiants c'est pas la communauté de la population qui a le plus de pouvoir d'achat, loin de là. Que c'est possible de pouvoir concilier les deux sans dire que c'est un acte, enfin que c'est une prière sans lendemain.
Alors déjà, c'est pas donner le minimum de rémunération, c'est donner
la juste rémunération. Oui, c'est vrai. Hein,
il faut que chacun vive de son travail. Et quand on entend les agriculteurs, et on les entend souvent et à juste titre, ce qu'ils attendent d'ailleurs, c'est pas des soutiens financiers, c'est que leurs produits soient vendus au juste prix et surtout achetés au juste prix. Donc, si on pouvait arriver à cela, ce serait bien. Alors effectivement, il y a des produits AOP ou AOC, de très haute qualité, sous signe de qualité, qu'on n'aura pas accès. Financièrement, on n'a pas suffisamment de budget pour le faire. Mais on ne s'interdit pas d'en faire. Tout est une affaire de logique, puisque nous faisons 200 jours de repas à peu près dans l'année, 200-220, suivant les périodes. Ça veut dire que on peut s'autoriser de temps en temps à faire des produits sous signe de qualité, dans une juste mesure, en fixant un prix un peu plus élevé, évidemment, mais derrière, on aura un équilibre alimentaire qui se fera sur la journée d'après ou sur le mois d'après. Donc tout ça, c'est un équilibre, une gymnastique intellectuelle économique que nous faisons au quotidien. Si un jour un produit veut moins cher, on peut le lendemain mettre un produit un peu moins cher. Pas de meilleure qualité ou pas moins bonne qualité, mais de qualité différente. Voilà, tout ça, c'est une gymnastique économique. Et oui, on a une limite quand même budgétaire. Hein. Si on nous donne 1,90€, on ne nous en donne pas 2. Et donc, il faut qu'on joue avec cet esprit-là. Mais sachez que des produits locaux, même si ils valent globalement plus cher puisqu'il y a moins de volume. Alors s'il y a moins de volume, il y a moins de capacité à être rentable. C'est 10 ou 18% plus cher. Mais on peut faire cet effort, j'oserais dire même, et je l'avais déjà dit à la radio, on doit le faire. Ouais. Pourquoi ? Parce que sinon, demain, on mangera des produits qui viennent de l'étranger. Alors, je ne vais pas parler du Mercosur, mais en même temps, moi, je préfère avoir des produits français parce qu'on voit que si, dans des périodes particulières, on ferme les frontières, je ne sais pas ce qu'on va manger dans nos assiettes. Vous voyez ? Donc, c'est quand même très, très important et je pense que les étudiants ont ce rôle à jouer, ce rôle de demandeur pour que cet écosystème perdure.
On parle de local et quid de la place aussi de l'agriculture paysanne dans justement le volet d'alimentation des étudiants, puisque on entend souvent parler hein, d'agriculture pas forcément intensive, mais d'agriculture, enfin d'un certain modèle d'agriculture qui s'oppose à ce qu'on appellerait plus la paysannerie. Alors évidemment avec un modèle qui, j'imagine, amène à des coûts plus importants, puisque c'est un autre type de production. Mais quelle est un peu cette place de cette agriculture paysanne qui peine peut-être parfois à s'inscrire un peu dans le paysage mis de côté, entre guillemets, par la grosse agriculture industrielle telle qu'on la connaît largement plus?
Bon, déjà, en France, on ne peut pas tellement parler de cette grosse agriculture intensive. Hein. Quand on se compare, vous me direz, des fois, il ne faut plus ou pas se comparer, mais quand on compare d'autres pays, on est très modeste en termes de quantité et de volume. Hein. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit dans ce modèle-là. Au demeurant, vous avez tout à fait raison. On peut dire qu'on a une alimentation et une agriculture avec un S. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la petite agriculture locale qui fait des déchets, une production de viande, qui fait des légumes. Voilà, ça, on a aussi sur notre paysage français cette agriculture, mais on a d'autres modèles agricoles divers et variés, et c'est toute cette diversité qui fait la richesse de notre pays. Et certains, comme vous le citez, cette agriculture paysanne va probablement plus s'adresser à des produits sous signe de qualité avec des paniers chez la ménagère plutôt qu'en restauration collective, où moi, je dois faire 4000 repas par jour. Et moi, j'ai des besoins de volume. Et le grossiste joue ce rôle, d'ailleurs. Il peut très bien aller vers ce petit modèle agricole, prendre les produits, on va dire tous les poireaux qu'il a dans sa production, et puis compléter cette production par Rungis qui lui aura un approvisionnement plus quantitatif. Tout ça, c'est le mariage de l'ensemble de ces agriculture qui va nous permettre, nous, de manger. On a quand même, je le rappelle, rien que pour la restauration hors domicile, c'est plus de 8 milliards de repas par an, plus de 12 millions de repas tous les jours. Eh bien, il faut effectivement des denrées tous les jours pour pouvoir vous nourrir.
Et là, si je peux me permettre,
oui. Du coup, le rôle du grossiste... Attendez, il y a peut-être le micro, on va vous rallumer le micro.
Pardon, le rôle du grossiste est également important, et c'est là où on travaille en partenariat avec nos clients, c'est d'aiguiller et de se dire, voilà, aujourd'hui, le climat fait que la pomme golden, on n'en a plus au mois de juillet sur cette année, je vous donne un exemple, à nous de l'expliquer au client, et que le client se dise, bah voilà, il n'y a pas de golden, je vais peut-être mettre un autre fruit, une autre variété. Et c'est là où on travaille vraiment en partenariat et on peut faire des choses très concrètes. Les contrats tripartites, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours et avec de nombreux clients. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous et à nous d'éduquer également nos clients là-dessus.
Au même titre qu'on a eu dans des périodes où il y avait trop de poireaux sur le marché et donc probablement des déchets. Alors les grossistes nous ont dit, est-ce que vous pourriez en acheter un petit peu plus, changer vos menus pour que finalement il y ait une juste rémunération à l'agriculteur, qu'on ne les mette pas à la poubelle. Vous voyez, chacun vraiment a un rôle à jouer dès lors qu'on peut être intelligent et jouer collectif, si je puis m'exprimer ainsi, pour sauver notre agriculture.
On a parlé donc gaspillage alimentaire tout à l'heure et notamment des dernières actions mises en place par le CROUS. On a dérivé un peu également sur les modèles d'agriculture. Je reviens quand même sur le gaspillage alimentaire et sur les déchets pour le coup parler vraiment de cette journée. Quelles sont vos attentes, Éric Le Pêcheur, par rapport à ces deux journées?
Moi déjà, je participe à cette journée en lien avec l'université qui elle-même va pratiquer des actions toute cette semaine. Donc je vois que finalement c'est un projet commun, c'est une communauté éducative qui va vers un projet durable et donc qui a du sens pour chacun d'entre nous. Moi, ce que j'attends de cette journée, c'est évidemment qu'on partage avec les acteurs qui sont autour de la table ces interventions auprès des étudiants, de rappeler que nous avons fait des pesées en amont des gaspillages et des déchets dans nos restaurants, parce qu'on n'a pas initié ça comme ça. Hein. Ça se prépare, ça se conditionne, ça s'organise. On a identifié qu'on avait à peu près 50 grammes par jour par personne de déchets, ce qui n'est pas énorme. Hein. Quand on avait commencé en 2012 avec la loi Garot, on était à 125 grammes par jour par personne par plateau, ce qui était énorme. Donc on a quand même beaucoup réduit. Il y a encore une marge de progrès, aussi bien chez l'étudiant que chez nous, hein, parce qu'il y a plusieurs causes qui font qu'il y ait des déchets. Hein.
Et selon vous, enfin peut-être que vous ne l'avez pas en tête, mais le plafond, pour le coup, ça serait quelle quantité de déchets selon vous? Le plafond qu'on pourrait difficilement, là, pour le coup, dépasser parce qu'on est passé de 125 à 50, comme vous avez dit, donc on a diminué de plus de la moitié. On peut aller jusqu'à où, selon vous?
Y a des déchets qui sont inévitables, et d'ailleurs qui pour moi sont pourrait être ne pas être des déchets. Je pense par exemple à la peau de banane, qui est un biodéchet. Je pense à la peau d'orange, qui est un biodéchet. Je pense aux os, qu'on va probablement pas manger, sauf si on devient des fins carnivores avec des belles dents. Voilà.
Donc, d'ailleurs, la peau de banane, elle ne va pas en composteur, celle-là, pour le coup. Si, elle va en composteur. Ce qui est bien de préciser, justement, aux auditeurs. Les composteurs se développent de plus en plus dans les résidences, dans les institutions, les bâtiments. Donc, ouais, la peau de banane peut passer au composteur. Voilà.
Mais il y a des choses qui ont du mal à passer. Hein. Oui, il y aura inévitablement des choses qui vont rester et qu'on ne pourra pas traiter et qu'on ne pourra pas diminuer parce que, je dis, sauf à manger les os, ça va être compliqué. Donc, quel est après le grammage que ça... Ben ça dépend des menus, ça dépend de la fréquence, ça dépend... Donc, je ne peux pas vous citer ce genre de choses. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut diminuer. Diminuer d'abord parce qu'on ne veut pas produire pour jeter, hein, sinon on va évidemment dépenser de l'énergie, de l'eau pour produire alors que ça va à la poubelle, donc c'est un vrai sujet. Et puis au demeurant aussi, ce qui est important, c'est probablement de faire que ça coûte moins cher dans les assiettes parce que je rappelle, hein, 50 grammes c'est de l'ordre de 10 à 20 centimes qu'on jette. Moi je préfère utiliser ces 10 centimes et 20 centimes qu'on jette pour le mettre dans la qualité du produit que j'achète. Voilà, et c'est important parce que si nous on a des gros volumes et que je dis à mon grossiste produisez-moi des salades et puis que je ne les utilise pas, ils vont arroser des salades, ils vont les faire pousser et ça va à la poubelle. Vous voyez, donc c'est un vrai raisonnement qu'on doit avoir sur du long terme. On doit pouvoir d'ailleurs s'améliorer tous collectivement à travers la définition des menus bien en amont pour que la production puisse mieux se rapprocher du besoin.
Alors on arrive un peu sur la fin, mais j'avais quand même une dernière question et vous m'y faites penser à cela. Donc on parle du gaspillage alimentaire, mais est-ce qu'il y a des actions également revaloriser de la nourriture qui n'a pas été utilisée dans les restaurant universitaire et qui est encore consommable, jusqu'à quel point justement on peut la revaloriser ici aussi?
Alors déjà on est d'accord, c'est un projet CROUS national et régional, hein, le directeur du CROUS qui est arrivé est tout à fait dans cette thématique de développement durable, c'est sa sensibilité et elle est partagée, je vous rassure, fortement, et effectivement depuis qu'il est arrivé on a modifié un certain nombre de choses, je pense en particulier puisqu'on l'a encore retraité, on a traité ce sujet hier avec nos responsables cafétéria. Aujourd'hui, dès lors qu'il reste des casse-croûtes dans une cafétéria, et on a des évolutions, des fois on a 200 ou 300 personnes de moins, on ne sait pas pourquoi, eh bien, dès lors qu'on a des casse-croûtes qui nous restent, ils sont récupérés pour être distribués le soir gratuitement, dès lors qu'il y a un acte d'achat. Hein. On ne donne pas gratuitement. Mais en tout cas, quelqu'un qui prend une salade, un sandwich, on lui en donne un deuxième gratuit. Celui qui n'avait pas été vendu le jour même dans une des cafétérias. On essaye effectivement d'être intelligent pour qu'il n'y ait jamais de gaspillage. Ça, c'est le premier sujet sur lequel on fait aujourd'hui cela. Mais en même temps, on va voir aussi avec quelques institutions lucratives, je pense à la banque alimentaire ou au Resto du Cœur, parce qu'on se doit aussi, nous, en tant que responsables de restauration, de faire de la contractualisation avec ces institutions pour essayer de récupérer ce qui n'a pas été vendu mais qui est encore mangeable, qui est avec une DLC évidemment respectée, qui est avec des températures respectées à 3 degrés. Alors, par la contractualisation, on va voir si on peut leur donner cela, parce que la banque alimentaire, moi je participe souvent en tant que bénévole, je vois bien les besoins et je crois que là encore, chacun doit œuvrer dans son coin, mais surtout déjà nos étudiants, parce que les déchets, c'est le mangeur déjà. Donc on va mettre en place d'ailleurs une autre petite application qui permettra aux étudiants d'avoir une grosse faim ou une petite faim, la grande dalle ou la petite dalle. C'est aussi un petit sujet de guide en disant, les étudiants, prenez pas trop dans l'assiette si vous le mangez pas. Hein, voilà, ça, tout ça, c'est de l'intelligence collective qu'il faut le développer, une responsabilité collective. On va continuer dans le chemin et j'espère que nos étudiants vont participer à ce projet.
Eh bien, merci en tout cas. Merci d'être tous venus. Franchement, ça fait plaisir. Et du coup...
Merci beaucoup. Ouais. On va peut-être se laisser sur un petit peu de musique et puis on conclura peut-être un peu plus tard tous ensemble. On écoute tout de suite.
Il est 59, hein, à mon avis. Hein. Je pense qu'on peut même conclure l'émission.
Conclure
là, ouais,
maintenant, effectivement.
Du coup, merci de nous avoir écoutés.
Bah, merci.
Ouais. Et merci d'avoir été là.
Bah, merci à vous.
Bonne journée.
Ouais, c'est enrichissant, c'est sympa.